R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Exactement 18h04 et nous sommes en direct de la Maison des Associations avec la cloche. Et on est le 19 avril, mardi 19 avril. Demain, c'est le débat final de cette élection présidentielle qui opposera Marine Le Pen et notre cher et dévoué Emmanuel Macron. Il y avait une chose qui nous tenait à cœur, c'est que face au fait que la parole et l'échange durant ces élections a longuement été dépossédée, c'est-à-dire elle s'est jouée sur les plateaux télévisés depuis bien, bien des mois et des années même, où l'escalade a commencé pour tout à fait nous déconnecter, voire nous amener à simplement trouver insupportable tout le flux de paroles, de positions, de discours racistes, haineux, homophobes, et j'en passe, qui se sont passés. Et en fait, cette idée est tout simple d'organiser ces plateaux délocalisés dans des espaces qui, moi, me sont chers, c'est-à-dire au contact des personnes, pas forcément celles qu'on entend tout le temps. Et le premier plateau a lieu le lendemain des résultats de la première, du premier tour avec le collectif de sans-papiers Place de la Mairie, où, malgré le fait que nous étions sonnés et pas forcément dans une énergie folle, à repenser, en tout cas, à repenser les moyens d'action, à poser un constat face à la situation, même à chaud, et à amener les gens à discuter et à poser leurs ressentis. Du coup, on pense vraiment que cette rencontre-là, qui est informelle, et cet échange qui va avoir lieu, il a juste pour objet de, en tout cas, nous permettre de communiquer ensemble et éventuellement d'y voir quelques indices de construction possible pour les futures actions. On ne sait pas. En tout cas, voilà, ça me tenait vraiment à cœur d'être ici avec vous. Et du coup, on n'est pas dans un lieu anodin. Et je vais laisser toi, Séverine, présenter où on est aussi.
Alors ici, on est à la Maison des Associations de Rennes. Et notamment, nous, les bureaux de l'association sont ici. C'est un espace partagé et qui accueille aussi beaucoup d'initiatives locales.
Et du coup, l'association...
Et oui, donc l'association La Cloche, c'est une association nationale qui lutte contre la grande exclusion par la création de liens sociaux avec les personnes qui sont isolées, qui sont sans domicile ou en situation de précarité. Donc on agit vraiment pour le lien social et casser les clichés que les personnes et les citoyens ont sur le monde de la rue. En fait, tous les clichés qu'on peut avoir et qui ne sont pas forcément vérifiés. On a un volet pour donner la parole aux personnes et une parole qui est souvent invisibilisée. Donc donner la parole par des actions. On a notamment écrit et créé une pièce de théâtre qu'on joue et ça permet de casser des clichés et changer le regard que les gens peuvent avoir sur le monde de la rue.
Et pour commencer cette discussion qui finalement a commencé bien avant qu'on soit en live, je pensais débuter par une question, en tout cas la thématique, c'est la précarité, la grande précarité et le monde de la rue face aux politiques. Et ça me paraît assez juste comme fenêtre.
La précarité, elle est très flagrante. Bon, les politiciens, personnellement, ils ne voient pas la précarité du même œil que nous qui y sommes. Donc, pour eux, c'est anodin. Il y a pas mal de trucs qui sont faits à qui on donne beaucoup la parole. Mais bon, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je pense que les politiciens feraient mieux de descendre vivre comme nous dans la rue, pour juste pouvoir comprendre comment c'est la galère, et peut-être qu'ils comprendraient mieux ce qu'est la précarité, parce que je pense que c'est bien beau d'en parler, mais je pense qu'il faut la vivre pour la comprendre.
Pour ma part, la précarité ne concerne pas que les gens à la rue. Il y a aussi des familles globales, donc des familles on va dire, de groupes ethniques différentes, donc de religion et de couleur et de, enfin, de tout ça, des chances différentes. Et pour moi, la précarité n'est pas que les gens à la rue, comme mon collègue l'a dit et moi. Il y a aussi des familles entières qui sont dans ce mode de précarité qui est flagrant. Ou rien que avoir un toit sur la tête est déjà pas mal en soi. Avoir à manger, bon, je sais qu'on est dans un pays où il est impossible de ne pas avoir à manger avec toutes les aides, ça je sais très bien, mais l'état de précarité pour moi, c'est plus que les zonards, c'est plus que les jeunes, c'est plus que les. Ça concerne vraiment tout âge. C'est-à-dire que j'ai vu des gens en précarité de l'âge de 18 ans à l'âge de 70 ans, 80 ans. Encore hier, j'ai rencontré une Ukrainienne que j'ai hébergée dans mon squat qui avait 62 ans et qui était devant la gare en train de pleurer parce qu'elle ne savait pas où dormir et que le 115 n'avait aucune solution pour cette brave dame qui avait l'âge d'être quand même ma maman et qui vient d'un pays donc en guerre et donc pas facile à vivre, quoi. Et pour moi, la précarité, c'est un grand mot, c'est vraiment vaste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les gens à la rue qui vivent la précarité. Il y a aussi des gens qui ont des appartements, qui vivent la précarité tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas donner à manger correctement à leurs enfants, qu'ils ne peuvent pas acheter des produits tout simplement adaptés parce que ça coûte cher. C'est pas. Voilà. Après, il y a le problème aussi de l'essence, il y a le problème de beaucoup d'augmentation, j'ai envie de dire. Et ce que nos politiciens ne comprennent pas, c'est qu'à force de cette augmentation, ça donne une rage à la population qui peut devenir flagrante, qui peut vraiment prendre une position à part et qui peut amener à un deuxième mai 68 ou enfin vraiment quelque chose qui peut devenir vraiment peut-être même violent. Voilà.
Bah, du coup, une petite question pour tout le monde. Du coup, vous, c'est quoi votre ressenti là actuel, Macron-Le Pen, et de ce qu'il adviendra probablement dimanche? On est un peu dans le flou. Comment est-ce que vous vous sentez? Je passerai aussi, hein.
Moi, personnellement, je pense que ça va être les nouvelles élections. On va avoir Macron, Le Pen. Je pense que les trois quarts des gens vont se rabattre sur Macron comme avant parce qu'ils vont vouloir faire reculer le Front National.
C'est plus si sûr, hein.
Maintenant, je pense que pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, ça va être dur. Parce que si c'est Emmanuel Macron, je pense qu'il va refaire comme avant, il n'y aura pas beaucoup de changements. Et je pense que si c'est Le Pen, ça va être du radical. Est-ce que ça sera mieux? C'est pour ça que je pense que les trois quarts vont peut-être s'abstenir.
Après, moi, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui, maintenant, comme moi, votent blanc, justement, à cause de ces problèmes, qu'il n'y en a vraiment aucun qui nous correspond. C'est-à-dire que dans nos pensées, dans notre façon de vivre, comme je vous en parlais tout à l'heure, un gars que j'adore, Soprano, qui dit qu'on vit en cosmopolitanie, donc groupe éclectique, donc il y a beaucoup de mentalités en France maintenant, c'est plus qu'une mentalité blanche à la con française, maintenant on est vraiment dans un pays soi-disant éclectique, soi-disant où tout le monde a le droit de s'exprimer, soi-disant. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un euphémisme. J'ai l'impression qu'on dit qu'on a le droit de s'exprimer, qu'on a une liberté d'expression, mais qui est totalement manipulée par tout ce qui est la télé, tout ce qui est BFM TV, tout ce qui est. En fait, j'ai l'impression c'est vraiment manipulé de façon en sorte que les gens croient des choses qui ne sont pas totalement réelles. Je veux dire, il faut sortir dehors pour voir la réalité. Et après, je pense que faire peur aux gens et à chaque fois leur dire les mêmes choses, leur dire que c'est des gens dangereux, qu'on est des gens drogués, violents, etc. Je pense que c'est pas une réalité du tout parce qu'il y a beaucoup de gens à la rue qui ne se droguent pas, qui ne boivent pas, qui sont très respectueux et j'en ai connu énormément. Et je pense que faire un amalgame de tout ça, C'est pas cool. Et je pense que la jeunesse, le moment où ils vont vraiment s'énerver, le moment où les cités, et quand je parle de jeunesse, j'englobe tout le monde, c'est-à-dire les cités, c'est-à-dire les anarchistes, c'est-à-dire plus ou moins tous les groupes de jeunes sociaux ou peu importe la mentalité, quand ils vont se mettre à se rebeller, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que dans ce cas-là, il va y avoir un taux de violence excessif? Est-ce qu'on va en revenir à, comme je disais tout à l'heure, à mai 68 avec une explosion du peuple qui va faire en sorte que peut-être le gouvernement va nous écouter? Mais là, pour l'instant, c'est très dangereux parce qu'on a un président très velu d'ailleurs, ce qui paraît, mais qui n'a pas compris du tout ce que l'on recherchait. C'est
La
pour ça,
pauvreté.
voilà. Et Marine Le Pen, ben, je pense que j'ai rien à dire sur elle. Hein. Je pense qu'elle est assez connue. Je pense que ses idées sont assez exprimées. Je pense que des Le Pen, ce n'est pas la plus dangereuse non plus. Je me méfierais plus de Marion Maréchal Le Pen. Mais je sais que, en tout cas, nous, ce qu'on en a marre, c'est des belles paroles. Voilà. Des belles paroles et pour qu'au final, il n'y a rien qui suive, quoi.
Mais ça, c'est aussi pour peut-être casser le premier cliché qui dirait qu'une personne à la rue, eh ben, ne s'intéresse pas à la politique et qu'elle ne vote pas, en fait.
Ce qui est totalement faussé, parce que je connais pas mal de gens à la rue, moi-même étant à la rue, peut-être pas cette année, je l'avoue, mais l'année dernière, enfin, il y a 5 ans, j'avais voté blanc parce qu'aucun correspondait à mes idées. Et je connais beaucoup de gens à la rue qui votent, hein. Je connais beaucoup justement de groupes de musique qui incitent aussi les gens. Par exemple, je parle des festivals, des choses comme ça, donc des groupes pas forcément très connus, mais quand même assez importants en France. Qui démontre qu'il faut voter, il faut dire ce qu'on pense, il faut y aller, il faut. Mais est-ce que ça va être pris en compte? La question des jeunes est là. Est-ce que leurs voix vont être prises en compte? Est-ce que les jeunes ont peur? La violence s'aggrave à cause de ça. Ça s'appelle une peur. C'est vraiment une peur de comment ça va se passer pour nos enfants, pour le futur, mais je sais que faut pas confondre tous les SDF, les zonards, et etc. etc. Il y en a qui votent, il y en a qui sont là-dedans, qui sont pour améliorer leur pays, qui sont pour tout ça. Donc il faut pas faire un cas de généralité sur les gens de la rue. Je suis désolé, mais il faut arrêter cette connerie de dire ils sont tous pareils, c'est tous des alcooliques, c'est tous des drogués, et ils en ont rien à foutre de ce qui se passe au niveau présidentiel et tout ça. Et pour ma part, le soir, quand je m'amuse à regarder une émission qui s'appelle Le Sénat, c'est hyper poilant parce que quand quelqu'un dit quelque chose d'intelligent, on voit des ministres qui dorment, qui s'insultent entre eux. Et alors, est-ce que c'est ça vraiment qui fait nos lois? Et après, on parle des jeunes qui sont violents, vulgaires, etc. Mais oh, rien qu'à regarder la chaîne Sénat, et les gens vont comprendre que c'est totalement faussé, c'est totalement triste. N'empêche que c'est eux qui font nos lois.
Moi, personnellement, je pense que beaucoup à la rue votent. Je pense après que on les voit moins parce que bon, leur voix est moins, disons, visible. Je pense aussi que tous ceux qui votent, beaucoup votent blanc. Et je pense que personnellement, en étant à la rue, moi, j'ai pas pu voter cette année pour diverses raisons. Je sais que y a beaucoup de monde, déjà, qui ont du mal à réfléchir à ce qu'ils vont voter, parce que tu regardes les trois quarts des programmes, ils parlent beaucoup de certains trucs pour les patronats, pour machin, ils parlent très peu pour la précarité. Donc moi personnellement, à cause de ça, il y a des moments où j'ai pas spécialement envie de voter, parce que je vois surtout on parle pour les patronats, les trucs, les avantages qu'ils vont avoir, mais on parle pas des avantages de personnes qui à la rue. Est-ce que à part quelques trucs qu'ils font pour se donner bonne conscience, comme augmenter un peu les RMI, augmenter un peu les AAH, comme la début mai s'augmenter de 16 €, mais moi je t'ai dit à mes collègues, 16 € ça va faire quoi? Ça va faire un paquet de tabac en plus. C'est pas utile, je pense qu'il faudrait mieux voir déjà ce qu'il fait et vraiment parler plus de ça. Il faudrait aussi faudrait d'une part qu'ils se mettent à notre place pour calculer et comprendre certaines choses, que la précarité, c'est pas facile, même si on a beau avoir un logement, une fois qu'on a tout payé, il n'y a pas grand-chose. Et la précarité, c'est aussi les familles qui peuvent pas payer Entre autres, leurs enfants de mois, par exemple, qui n'ont pas pu payer le chauffage. C'est surtout cela qu'il faut parler, parce que c'est ceux qu'on parle le moins, mais ceux qui sont peut-être le plus en précarité que certains qui ont tout à la rue. Mais ceux qui n'ont pas pu payer leurs factures, par exemple, on va dire d'EDF, et ben ces gens-là, tu vois, ils nous quittent prématurément dans le froid et la misère, mais on en parle beaucoup moins. Et c'est surtout cela qu'il faudrait parler dans la précarité. Si la précarité, comme disait mon collègue, c'est un mot qui est vague et qui est grand.
Du coup, c'est vrai que parler de précarité, comme vous le dites, finalement, ça englobe c'est une seule classe sociale, des très 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 précaires, mais différentes réalités en tout cas. Et par contre, est-ce que les sans-domicile sont représentés, quoi? Est-ce qu'il y a des mouvements? Enfin, tu vois, il y a aussi ça, quoi. Dans cette invisibilisation, on voit peu. De collectif, limite, c'est un truc qui se vit, en tout cas moi j'ai l'impression, très très seul, et où il y a peu de d'organisation pour revendiquer.
Moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'organisations qui nous aident. Par contre, on est quand même dans un pays où on a quand même une certaine chance d'avoir quand même pas mal d'aide. Quand on est vraiment dans la précarité, je parle, hein. Moi, en tant que papa, je sais que la maman de mes enfants a du mal à boucler ses fins de mois, même en travaillant, parce que ben, la vie augmente, l'essence augmente, enfin bref, tout augmente. Et qu'il y a des fois, même en travaillant, parce qu'il faut arrêter de croire qu'on est des gens qui n'ont jamais travaillé, qu'on est des gens qu'on n'a jamais fait des choses dans notre vie. Je veux dire, il y a certains de mes amis qui ont participé, qui ont fait l'armée, qui ont fait des choses exceptionnelles. Et ils se retrouvent quand même dans une précarité. Et j'ai envie de dire globalement que tout le monde s'en fout. Voilà. Et ce qui m'énerve, c'est plutôt ce jugement abstrait que les gens ont de, sans connaître, directement juger les gens, quoi. Sans savoir ce que l'on vit, sans savoir ce que l'on pense, et sans même nous demander déjà notre avis et ce que l'on pense, sans nous donner vraiment nos opinions, déjà on est catalogué, catégorisé. À partir de là, si on met à chaque fois des gens dans des boîtes comme ça, dans des, j'ai envie de dire, dans des espèces de boîtes de sardines, entre guillemets, des boîtes, forcément, il y aura pas, on pourra pas avancer, on pourra pas. Il y a un moment, il faut qu'on sache que, comme on disait avec mon collègue, la précarité, ça peut toucher beaucoup de monde, pas qu'une classe sociale, hein, parce que il y a aussi des gens qui travaillent, qui sont censés normalement vivre potablement, et quand on les voit en fin de mois, ils ont rien, c'est la galère totale, c'est à peine s'ils ont de quoi mettre de l'essence dans leur voiture, c'est à peine s'ils ont de quoi aller travailler, nourrir leurs enfants. Je trouve ça un peu aberrant. Voilà. Je trouve que pour moi, la précarité, ce n'est pas que les gens à la rue, ce n'est pas, ça touche beaucoup de familles, hein. Et des grandes familles, quoi, et de toute ethnique, de toute race, de toute. Et on est quand même dans un pays laïque, d'après ce qu'on dit, où les droits de l'homme sont quand même normalement. Voilà, et je comprends pas qu'on puisse nous mettre dans des cases comme ça et se dire on s'en fout, c'est des gens qui le méritent. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue aussi, parce que qui peut mériter de, par exemple, perdre un appart, son travail, alors que ça peut arriver littéralement à tout le monde. Ça peut arriver, je veux dire, à n'importe qui du jour au lendemain de se retrouver à la rue. Et quand on ne connaît pas la rue, c'est un milieu qui est très difficile, qui est assez violent. Mais ça peut arriver à tout le monde. Il y a des familles entières qui atterrissent à la rue, des papas, des mamans avec leurs enfants. Il y a pas que des toxicos, des alcooliques, des machins, des ci, des ça. Faut arrêter ce cliché de balle de croire que les gens en précarité et les gens de la rue sont tous des toxicos, des alcooliques et des gens qui s'en foutent de la France. C'est pas vrai du tout. C'est juste qu'on prend à chaque fois pour une minorité, c'est la majorité qui trinque. Et ça commence à devenir agaçant. Et je pense que ce qui agace le plus en France les gens, c'est cette minorité de cons, excusez-moi le terme, qui font en sorte que la majorité trinque et que nos politiciens ne comprennent pas, mais pas du tout.
J'ai l'impression aussi qu'il y a une ambivalence parce que, en même temps, on va dire que les gens qui sont qui pas tous, hein, mais les systèmes mis en place pour vous aider, c'est-à-dire, bah, moi je pensais à l'église là. Pas tout, enfin, je pense qu'il y a des très bonnes choses qui se passent aussi. Je ne veux pas du tout mettre même justement les gens dans une case, mais le système, voilà, de bonté, d'aide au prochain, sont à la fois ceux qui aident, mais à la fois ceux qui maintiennent dans un stéréotype, c'est-à-dire si je l'aide, eh ben, j'ai droit, c'est que je le sais. Qu'il est comme ça, c'est qu'il va pas s'en sortir, et du coup je le maintiens dans l'aide, et c'est les mêmes personnes qui, je suis désolée, hein, enfin les grands curés, bah, ils appellent à voter l'extrême droite aussi, donc c'est hyper ambivalent, parce que les premiers, bah, l'Église, tout ça, c'est les premières personnes qui font, qui œuvrent en tout cas pour aider les gens dans la grande précarité, faire don aux prochains, mais en même temps, politiquement, on les retrouve quand même à soutenir des idées qui sont limite contre-classe, quoi. Je sais pas.
C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu, ouais, c'est une controverse, quoi. C'est un peu, c'est, ouais, c'est je t'aide, hein, et en fait, j'en pense pas moins. Je sais pas si la phrase est bien placée dans le contexte, mais c'est en fait, je oui, je vous aide, oui, je soi-disant, je ne vous juge pas, alors qu'au final, il y a quand même un jugement, il y a quand même une aide qui est apportée, ça je suis d'accord, mais derrière, il y a quand même des paroles qui sont dites. Et ces paroles-là peuvent faire très mal aux gens comme nous. Parce que quand on nous aide, on le sait très bien, il y a plein d'associations, ça on ne crache pas là-dessus. Hein. On sait très bien qu'il y a plein d'associations qui nous aident, on est heureux que ces gens soient là, on leur remercie tous les jours de leur travail, de leur compréhension, de leur grand cœur. Mais voilà, par derrière, l'Église, comme tu as si bien dit, des fois, politiquement, ne suit pas leurs vraies idéologies. Alors que normalement, quand tu as une idéologie, tu dois la suivre de but en blanc. C'est-à-dire que tu dois vraiment rester dans le... Mais après, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est pas compliqué, tout ça, ça pourrait être un sujet à débat qui pourrait durer des heures. Mais moi, je pense que après l'Église, ouais, ils aident, ben, pas tant que ça, parce que maintenant, moi, je trouve que ceux qui aident le plus, c'est plus des étudiantes, c'est plus des jeunes qui ont fait des études, qui sont eux-mêmes pas en précarité, mais qui nous comprennent vraiment. C'est-à-dire qu'ils nous jugent pas, ce qui est génial, parce que comme on dit, juger son prochain, c'est pas, voilà, hein, même dans la Bible c'est écrit, ce n'est pas bien. Et c'est, j'ai plus confiance à la limite en ces personnes là qui font partie d'universités, qui font partie de groupes sociaux comme ça, de que vraiment à l'Église en elle-même. Après, peut-être que comme je suis athée, c'est ma philosophie.
Moi, je pense que tous ceux qui nous aident, déjà c'est ceux qui ont le moins, parce qu'ils comprennent un peu ne pas avoir beaucoup d'argent. Donc, d'une part, c'est bien beau quand t'as un petit travail, une fois t'as tout payé, si t'es le gaz, t'as plus grand-chose. Donc, tu manges des pâtes et du riz, voire trois patates qui se battent en duel dans ton assiette. Je pense que la précarité voudrait un peu plus que ça. Donc, je pense que tous ceux qui ont des grandes fortunes et qui donnent pour aider, c'est pour se donner un peu de la bonne conscience, on va dire. Comme disait Balawan, c'est bien beau de faire monter des pompes en Afrique, mais ce qu'il faudrait faire, c'est leur apprendre à les réparer simplement pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils puissent s'en sortir. Parce que c'est bien beau d'aider des gens, mais si tu lui expliques pas comment faire pour s'en sortir, je pense que ça n'avance pas beaucoup. Le but, c'est ça, à la base, d'aider quelqu'un, c'est lui faire comprendre comment il peut évoluer pour qu'il puisse s'en sortir sans jamais, après, ne plus avoir besoin d'aide. Et peut-être qu'il allait pouvoir penser peut-être à aider son prochain, parce que ce qu'on a fait pour lui, il le fera pour quelqu'un d'autre. Et je pense que la vie, elle tournerait mieux.
Je pense qu'on est individualiste quand on a peur de la misère, et je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de gens, en fait.
Peur de la misère, bah, bien sûr. Bah, c'est effrayant, la misère, personnellement. À Paris, c'était, quand j'y habitais, c'était vraiment le cas. Moi, ça m'effrayait, les gens qui regardent même plus... Enfin, les gens qui leur demandent une pièce, hein, c'est fini ça. tu regardes plus, tu fais comme si l'autre il n'existait pas, parce que mais je pense que bah, quand j'étais petite, ça me choquait profondément, ça me choque toujours, mais je me dis que ces gens-là sont les premiers à avoir une peur immense, quoi. Après, moi, ça m'amène à une autre question et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'on soit là à pouvoir échanger sur ça. C'est que toi, concrètement, qu'est-ce que, en étant, moi, je sais pour moi, hein, qu'est-ce qui pourrait me sortir de ma précarité, ce que je voudrais. Mais toi, concrètement, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nommer qui pourraient t'aider à te sentir plus. Enfin, te sentir mieux dans tes pompes et te sentir mieux dans la société, quoi.
Déjà, c'est pouvoir me donner ma chance dans certains trucs, d'une part, dans un travail, par exemple, avoir du soutien des gens qui ont été plus ou moins comme moi, qui peuvent comprendre par où je suis passé, parce que c'est bien beau de parler de la misère, mais il faut avoir vécu un minimum pour en comprendre et se permettre de dire, moi j'ai pu voler comme ça, donner à certaines personnes les outils en main, on va dire que les soutenir, pas spécialement financièrement, mais... Juste simplement le soutenir, lui remonter le moral quand il a besoin, parce que quand tu es souvent en précarité, tu pars très vite à déprimer. Donc tu penses très vite à une mauvaise pensée du démon, ce qu'on appelle la drogue, l'alcool. Alors que chez les riches, qui ont beaucoup de thunes, eux, ils en prennent de la drogue aussi, peut-être plus que nous, mais bon, on en parle beaucoup moins. Donc quand on me sort que la précarité, c'est des drogués, des rebuts de la société ou on va dire des tâches sur le paysage qui servent pas à grand chose. Personnellement, je trouve ça bête parce que je suis sûr que un précaire, simplement tu lui dis tiens, t'as le balai, tu vas balayer Paris, il le fera. Alors que moi, quand j'ai demandé à la mairie de Paris pour balayer, on m'a dit qu'il fallait un bac plus 2, que c'était un technicien de surface maintenant. Donc quelqu'un qui a pas eu la chance de faire des études, je trouve ça con de pas lui donner sa chance.
Moi, ce que je trouve con aussi, je suis d'accord avec mon collègue, c'est aussi que par exemple, alors il faut savoir qu'en France, quand tu as fait des études, on te reproche de ne pas avoir d'expérience. Et quand tu as de l'expérience, on te reproche de ne pas avoir les études. Il y a un moment, faut faire la part des choses, quoi. Tu ne peux pas sortir d'un diplôme et avoir de l'expérience. Ton expérience, tu dois l'avoir au fur et à mesure, la fignoler. Le diplôme est là pour t'aider au début, mais l'expérience se fait au fur et à mesure. Donc, comme dit mon collègue, si au bout d'un moment on nous aide pas et on nous donne pas des opportunités, parce qu'il y a beaucoup de gens à la rue qui sont très intelligents, qui sont manuellement très doués, qui sont, je veux dire, des gros bosseurs, j'en ai vu aussi. Si on leur donne pas leur chance, ce qui se passe, c'est que après moi je suis pas très bien placé pour en parler parce que j'ai fait beaucoup de mauvais choix dans ma vie, que j'assume, mais je sais que je connais beaucoup de personnes que si on leur laisserait une chance, ils pourraient montrer de quoi ils sont capables et ils feraient des choses extraordinaires. Que ça soit dans n'importe quel corps de métier, vraiment. J'ai vraiment rencontré des gens que dans n'importe quel corps de métier feraient des choses extraordinaires. Juste, on leur laisse pas le potentiel, on leur laisse pas la faculté, la facilité d'essayer de pouvoir accéder à ça, quoi. Et ça en devient compliqué. Et après, les gens ne comprennent pas forcément la rage des jeunes. Mais les jeunes, s'ils ont la haine, c'est peut-être pour ça aussi. C'est qu'à un moment, quand on coupe les ponts d'un côté et qu'on coupe les ponts de l'autre, comme disait ma maman, tu es au milieu du pont, coupé dans les deux sens. Comment tu fais? Tu vas où? Tu fais quoi?
Il n'y a pas de formation?
Il y a des formations, mais des fois, pour acquérir la formation, c'est compliqué. Par exemple, un SDF comme moi. Bah, moi, j'ai fait une formation l'année dernière. J'étais hébergé par un ami parce que j'étais SDF. Quand cet ami s'est barré, je me suis retrouvé à la rue avec mon chien et j'ai dû arrêter ma formation. Donc, sans appartement, c'est compliqué. Donc, faut bien avoir du travail, on le sait. Hein. Mais d'abord, trouver un logement, je pense que c'est une priorité. Un toit sur la tête. Et excusez-moi d'être franc, mais avec tous les logements qu'on voit qui sont pas habités, toutes les structures énormes d'ailleurs qu'on voit qui sont en état d'abandon total, on va dire. Je veux dire, il y a un moment où on pourrait faire des logements sociaux, on pourrait faire pour que ces fameux jeunes dans la précarité puissent déjà avoir un toit, déjà, pour commencer, et après trouver ce fameux travail qui leur correspond pour pouvoir avoir une vraie vie. Une vraie carrière et peut-être aussi changer un peu les choses, j'ai envie de dire. Mais ça devient compliqué. Moi, je sais que j'ai travaillé sans avoir de toit sur la tête. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et il y a beaucoup de jeunes qui vivent la même chose que moi. Donc il y a un moment où il faut relativiser, il faut que les gens comprennent que déjà il nous faut un toit sur la tête. Et c'est pas parce qu'on ne le veut pas des fois qu'on n'a pas de toit sur la tête. Parce que des fois on monte des dossiers, on va voir des assistantes sociales, on fait tout pour. Mais il manque toujours quelque chose. Ah, vous n'avez pas de CDI. Ah, vous n'avez pas trois salaires, trois bulletins de salaire. Ah, vous n'avez pas de cautionnaire. Ah, vous n'avez pas ci. Ah, vous n'avez pas ça. Et c'est toujours des barrières, des barrières, des barrières. Et si vous voulez, il y a des gens comme moi, par exemple, qui des fois, ça peut leur faire péter un plomb et on a envie de baisser les bras. Et c'est à cause de ça aussi que la drogue, l'alcool, tout ça rentre en jeu. C'est-à-dire que quand on baisse les bras et que psychologiquement, on est à bout de nerfs, à fleur de peau, c'est tellement facile aux autres de nous critiquer, mais c'est tellement dur de vivre et de comprendre ce qu'on vit que je pense qu'avant de juger, ils devraient essayer déjà de nous comprendre, de comprendre ces familles en précarité, de comprendre les étrangers qui ne parlent pas forcément français, que c'est leur enfant, qui sont obligés, par exemple, de traduire aux mamans ce qui se passe parce qu'ils vont à l'école, parce qu'ils vont, voilà. C'est un tout, quoi. Il y a un moment où il faut, faut être un peu réaliste, il faut être un peu compréhensif, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de dire, quoi.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'as pas de travail, tu peux pas forcément avoir ton permis de conduire parce que c'est quand même un capital de base qu'il faut sortir. Donc quand tu vas, par exemple, pour un poste de travail, première chose qu'on te demande, est-ce que vous avez le permis? Donc déjà, ça ferme tes portes. Ensuite, le fait que t'as fait quelques temps jeunesse où t'as été, on va dire, pour diverses raisons, garde à vue, prison, même HP, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Donc ça, c'est très dur pour les rouvrir. Et du coup, bah, quelqu'un qui a goûté une fois la prison, eh bah, c'est très dur parce qu'on ne lui fait pas vraiment confiance. Si on donnerait la chance à certaines comme ça, certaines personnes comme ça, je pense qu'il y aurait peut-être plus de gens qui travailleraient. Parce que, bonne surprise, le permis qui a un capital, c'est bien beau. Mais si tu n'as pas le capital pour payer ton permis, on est dans la rue. Donc déjà, tu peux pas trouver de travail parce que les trois quarts du temps demandent le permis principalement sur certains trucs. Faut aller loin, c'est machin. En boîte d'intérim, c'est pareil. C'est bien beau d'aller en boîte d'intérim tous les matins, mais si tu te lèves en n'ayant pas dormi, tu peux pas être propre. Donc si t'es pas propre, tu peux pas te présenter correctement devant un patron. Et je pense que ça, c'est beaucoup de choses qui devraient changer de façon à ce qu'on puisse dignement tous les matins se lever pour pouvoir aller chercher du travail.
Je pense que Coluche est mort avec toute une époque et que, comme il disait, du temps de La Fontaine, Jean La Fontaine, on avançait et juste après sa mort, on n'a fait que reculer. Et ben, je dirais un peu la même chose. Je pense qu'il a essayé avec Jean-Jacques Goldman de créer les Restos du Cœur et qu'après, ça c'était les années 80 à peu près, et que maintenant on recule de plus en plus parce qu'on a de plus en plus peur. Et ça ressemble un peu à un manège. Et du coup, on tourne en rond, on trouve pas de solution. Et on trouve pas de solution parce que je sais pas si on peut pas, je pense qu'on ne veut pas. Je pense que si les patrons, si, comme disaient les personnes tout à l'heure, s'il y avait plus de volonté pour essayer de comprendre les gens de la rue, pour essayer de voir que c'est très compliqué pour eux de trouver un appartement, un logement, et que le monde est fait, ce monde qu'on leur offre est fait à l'envers. Bah peut-être qu'ils pourraient essayer de trouver des repères, ou peut-être qu'on pourrait les aider plus que ça, mais plus je les entends, plus je vois toutes les portes qui se ferment, mais il n'y a vraiment rien pour eux. Et je pense qu'on ne pense pas du tout à ce qu'une personne de la rue pourrait vivre, parce qu'on ferme les yeux et qu'on reste dans le confort. Et ça, c'est quelque chose qui reste inaccessible pour essayer de le comprendre, en fait, je pense.
Je reviens à ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques et très peu de théorie, mais si tu as beaucoup de diplômes, tu as forcément de la pratique. De la théorie, c'est un fait. Mais si le patron ne veut pas te prendre pour que tu mettes en pratique ta théorie, et ben ta théorie, elle ne te sert pas à grand-chose. Donc on fait plein d'études, des bacs, machin. Mais si tu peux pas pratiquer la théorie, ça ne sert pas à grand-chose de faire des tas d'études.
De moins en moins. Ouais. Enfin, en tout cas, pour expérience personnelle, beaucoup d'études et finalement pas de travail. Donc, mais ce que tu as dit tout à l'heure, il y a deux choses qui m'ont interpellée. C'est cette question aussi liée à la compréhension du besoin d'un accompagnement psychologique aussi, d'une prise en charge en fait. Parce qu'on peut donner Tu disais, on peut donner un appart, on peut donner un travail, mais il y a quelque chose qu'il faut retravailler après, pendant ce temps, durant toute cette période-là, si que toi, dans ta tête, tu regagnes de la dignité et que toi, dans ta tête, tu reviennes un peu à la société, entre guillemets. Et cette question de prise en charge psychologique, il y a, par exemple, apparemment, c'est défendu dans le programme de Macron. Et il y a la question du travail, comme on disait. Et là, c'est peut-être provocateur. Macron parle du plein emploi. Donc, est-ce que tu accepterais, toi, un travail coûte que coûte, même s'il était payé une misère?
Tout est... Je pense que avoir un travail qui serait payé une misère, je serais pas sûr de le prendre parce que je pense que pour vivre, faut quand même avoir un peu de dignité, de vivre décemment, c'est-à-dire avoir un minimum de pouvoir d'achat pour pouvoir m'offrir à peu près ce qui me ferait plaisir. Parce que si je travaille que pour payer mes dettes, par exemple, ou si je travaille que pour avoir des pâtes et du riz, je préfère rester à rien foutre. Je sais pourquoi je mange des pâtes et du riz, personnellement. Maintenant, la question est, c'est que si les patrons, au lieu de vouloir prendre des gens qui ont des diplômes, parce que ça fait bien, ça fait super bien dans le CV, alors que t'en as qui n'ont pas de diplôme, mais qu'ils ont les capacités, voire le niveau, eh ben, ils auraient peut-être plus de chances d'avoir de la pratique. Et je suis sûr que des gens comme ça, qui n'ont pas les diplômes, je suis sûr qu'ils savent mieux travailler que des gens qui ont le diplôme, qui n'ont jamais travaillé de leur vie.
Mais si un patron, il te prenait et qu'il disait, bah, moi je préfère te prendre toi qui a pas de diplôme plutôt que celui qui a un diplôme, mais par contre, c'est ta première expérience, voilà, t'as fait tes erreurs dans la vie et je te sous-paye.
Moi je pense que s'il me prendrait et qu'il me paierait un peu moins parce que j'ai pas le diplôme, je pourrais le comprendre parce que j'ai que le niveau et que j'ai pas la qualité requise pour pouvoir prétendre être supérieur. Mais si on me donnerait ma chance sur certains trucs, je pense que je la saisirai.
Moi, personnellement, moi, je dirais oui, je le prendrais le travail. Parce que, genre, à l'heure actuelle, de se permettre de refuser un travail, c'est quand même couillu. Parce qu'il n'y a pas des masses de travail, il ne faut pas croire. Et moi, je pense que oui. Le fait qu'on me dise que je n'ai pas le diplôme requis et qu'on me paye un peu moins cher à cause de ça, je pense que je prendrais le travail. Mais c'est aussi pour une espèce de fierté que j'aurais personnelle. De reprendre du travail, une vie active. Et je parle de ça aussi comme soutien psychologique. Je ne parle pas que niveau financier. C'est-à-dire qu'un travail, il n'y a pas que le niveau financier. Il faut voir aussi que retravailler, reprendre une vie active, reprendre, c'est très psychologique. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, ça ne nous fait pas marrer d'être tous les jours à la rue et de galérer, pour certains de faire la manche, etc. etc. Moi, je prendrais n'importe quel travail avec plaisir. Même sans qualification, même si c'est pas aussi bien payé que quelqu'un qui aurait une qualification, parce que je n'ai pas cette qualification, moi perso, je prendrais ce travail-là. Après, comme je vous ai dit, c'est aussi pour un côté psychologique que je ferais ça, et pas que pour un côté financier. En sachant que dans tous les cas, le côté financier, c'est compliqué. Avec toutes les augmentations, que ce soit de l'essence, que ce soit du pouvoir d'achat, que ce soit, peu importe, des augmentations, ça devient dur de vivre. Dans tous les cas, ça devient très très dur de vivre. Maintenant, après avoir un travail, pour certains d'entre nous, c'est presque une chance. Ça serait presque une chance qu'on nous donne l'opportunité d'acquérir ce travail. Après, j'ai envie de dire que même si on n'a pas le diplôme, qui peut pas dire que pendant qu'on est en train de travailler, on peut pas parallèlement passer ce fameux diplôme qui fera en sorte qu'en même temps, on ait ce diplôme et acquérir ce qu'il faut pour avoir les deux capacités. C'est possible aussi. C'est très possible aussi en France. Il y a plein de formations qui le font. C'est-à-dire qu'on vous prend sans forcément d'avoir des CAP, etc. Tu travailles pour une entreprise et si cette entreprise te fait en même temps passer ce fameux CAP, c'est du 2 en 1. C'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour l'État, c'est gagnant pour toi, c'est gagnant pour tout le monde. Et je pense qu'il y a un potentiel de faire ça. Il faudrait juste qu'ils réfléchissent à certaines formations, à comment l'État pourrait réagir en fait, comment on pourrait faire pour avoir le diplôme et l'expérience. Parce que c'est possible d'avoir les deux. C'est totalement possible. À l'heure actuelle, c'est totalement possible. Mais déjà, est-ce que, voilà, comme disait mon collègue, par exemple, si on sort de prison, est-ce que le patron va nous donner notre chance? Alors que sortir de prison ne veut pas dire qu'on est des tueurs, des gros délinquants. On peut avoir fait une petite bêtise étant jeune et avoir fait certes mois de prison, ce qui fait que ça nous met des barrières, des bâtons dans les roues, alors que des fois c'est pas des grosses bêtises, hein. Ça reste du voilà. Qui n'a pas fait de bêtises dans sa jeunesse, j'ai envie de dire. Mais il y a un moment, tout ce que j'aimerais, c'est qu'on mette moins de bâtons dans les roues et plus d'opportunités, et qu'on laisse les jeunes, que ce soit de cité ou de la rue, enfin, peu importe, mais qu'on leur donne le potentiel de montrer ce qu'ils sont capables. Qu'on arrête de les critiquer, qu'on arrête de se faire cette fausse idée et qu'on les laisse montrer de quoi ils sont capables.
D'accord. Bah, juste pour les auditeurs qui nous rejoignent, là on est à la maison des associations avec l'association La Cloche et on est toujours dans cette idée de débat d'entre-deux-tours. Demain, c'est le débat qui opposera Macron à Le Pen. Et pour revenir à ça, comment est-ce que vous... Si Le Pen, je ne pense pas, on croise les doigts tous, passait, comment est-ce que vous imaginez votre situation dans un gouvernement ouvertement fasciste et néolibéral?
Moi, je pense que si c'est Le Pen qui passe, je pense que ça risque d'être la guerre civile, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la fois contre, et je pense aussi que personnellement, ceux qui sont les plus opprimés dans les cités, qu'on met dans les cages à poules, ils vont pas être d'accord déjà. Déjà qu'on n'est pas d'accord personnellement de Macron, qui reste un peu comme Chirac à l'époque, un escroc. Maintenant, si c'est le fasciste, ça va être la guerre civile, parce qu'il y a déjà qu'il y a suffisamment de problèmes de racisme, de fascisme en France, et je pense que si la politique et les présidents s'en mêlent, franchement, je ne sais pas quoi m'en attendre, mais je pense que pour nos futures générations, ça ne sera pas terrible.
Moi, j'ai peur que ça engendre tout simplement de la violence, encore plus de violence. Déjà qu'il y a un taux de violence, on va dire, assez excessif dans notre pays, parce qu'il ne faut pas croire, la violence est là, même si les bourges, etc., ne la voient pas, la violence est là, il y a beaucoup de violence. J'ai peur que si Marine passe, il y ait, comme dit mon collègue, cette espèce de violence qui va augmenter dans les ghettos, qui va augmenter chez les gens de la rue, qui va augmenter en fait dans plusieurs groupes, plusieurs... Et je pense que ça peut devenir peut-être très dangereux, que ça peut mener à une révolution, mais qui ne serait pas qui ne serait pas peace, qui ne serait pas une révolution tranquille, qui pourrait donner une révolution vraiment ce que j'appelle très violent, en sachant qu'on vit quand même maintenant dans une époque très violente où les cités, moi qui suis né dans une cité, sont très armées par exemple, où la violence est déjà un fait établi dans ces cités là si on engrange la violence par encore plus de violence, on engrange la haine par encore plus de haine. Je pense que ça va pas être bon. Après, c'est mon avis.
Mais justement, au vu des résultats, elle a quand même pas mal de voix chez une population qui est aussi très précaire et rurale. Du coup, la précarité face au FN, c'est aussi son électorat, quoi.
Je pense que la précarité vote le FN parce que justement, il y en a beaucoup qui sont prêts à vouloir faire une guerre civile, on va dire, une émeute ou autre pour pouvoir s'en sortir et avoir peut-être un avenir meilleur. Donc je pense que ça, c'est très dur parce que pouvoir penser comme ça, c'est un peu débile. Personnellement, c'est ce que je pense parce que je pense pas que la haine et la violence résolvent les problèmes. Je pense qu'il y a plus, peut-être du pacifisme à faire, mais ce qui n'est pas toujours évident à trouver. Parce que, tu sais, au fond du désespoir, t'as toujours l'espoir de trouver le trou noir. C'est plus facile de tomber dans un trou noir de haine que monter dans un trou plein de soleil où la liberté est libre. Et ça sera toujours pareil. Mais je pense que ça sera très dur.
Moi, personnellement, je pense que si ces gens votent pour elle aussi, c'est parce que les politiciens sont assez doués pour sortir des beaux discours. C'est-à-dire que pendant qu'ils font leur campagne électorale, ils disent ce que les gens ont envie aussi d'entendre. C'est là où l'intelligence des politiciens, et j'appelle ça aussi du vice. Parce que Marine Le Pen, par exemple, son intelligence qu'elle a, c'est de se servir donc de ses adversaires pour dire tout le mal qu'ils ont pu faire dans le pays et dire qu'elle va rattraper la situation. Et je pense qu'il y a des gens qui, en fait, tombent dans le panneau de se dire peut-être que oui, Macron a fait de la merde pendant 5 ans et peut-être que Marine pourrait rattraper avec ses beaux discours, avec ces termes-là, la France. Moi, je ne suis pas tellement sûr que ça va se passer comme ça. Je ne suis pas sûr que si elle est élue, est-ce qu'elle va essayer de relever la France? Est-ce qu'elle va vraiment essayer de faire ce qu'elle a dit dans ses discours? C'est ça la question. Là est la question. Parce qu'à chaque fois, les politiciens nous disent beaucoup de belles paroles, beaucoup de belles pensées, de choses comme quoi ils vont arranger les situations, ils pensent aux gens précaires, etc. Mais une fois qu'ils sont élus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est tout l'inverse de ce qu'ils ont dit. Et peut-être c'est pour ça aussi que nous, maintenant, on a du mal aussi à voter, on a du mal à croire en eux, parce que le fait d'avoir des belles paroles, c'est un fait, c'est bien. Mais après, derrière les belles paroles, il faut les agissements. Et tant qu'il n'y aura pas de vrais agissements, je pense que le peuple français en aura plein le cul, quoi. Il en aura marre, quoi. Il va se dire, il y a un moment où c'est bien de bien parler, c'est bien de... Mais alors, dans ce cas-là, ça serait dangereux de mettre le FN en se disant, parce qu'elle a des belles paroles et que Macron en fait de... pas de choses forcément cool pour la France, mais là, ça serait un euphémisme de croire que ça va arranger la chose. Ça serait totalement un euphémisme. Parce que je pense pas qu'elle va arranger vraiment la situation, quoi. Après, c'est mon avis, encore une fois.
Et le toit, en promenant, justement, je trouve que la rue, ça parle énormément. Et là, j'ai remarqué justement à quel point il y avait du placardage, enfin, qu'il y avait plein de formes d'expression, là, dernièrement à Rennes, sur, notamment sur le fait de potentiellement pas voter, potentiellement ne pas donner de voix à Macron, potentiellement aller vers une insurrection, potentiellement, il y avait une multiplicité de choses qui se passent. Et est-ce que vous en discutez entre vous avec les camarades qui sont dans votre situation ou pas?
Moi, je discute pas du tout parce que quand il y a des différences d'opinion, souvent ça amène d'un autre boudin, parce qu'il faut forcément qu'on n'est pas content, mais il y en a qui comprennent pas que d'en parler, ça veut pas dire forcément se taper sur la gueule, parce que souvent les gens, quand t'es pas d'accord avec eux, ils veulent à tout prix t'imposer leur opinion. Que j'ai eu ça toute ma jeunesse, et moi personnellement, je pense pas que imposer mes opinions, je pense pouvoir m'exprimer et dire simplement ce que je pense. Certains collègues sont comme moi, il y en a d'autres qui pensent que si on leur dit ces opinions, ils vont penser qu'on essaye de les faire en sorte qu'ils ont les mêmes opinions que toi. Et ça fait des nœuds de boudin. Donc c'est pour ça que parfois, moi, je m'abstiens d'en parler de politique.
Moi, j'en parle assez, pas mal avec certains collègues. Mais comme disait mon collègue, il a tout à fait raison. Mais moi, ce que j'explique aux collègues avec qui j'en parle, enfin, aux gens de la rue, etc., que je côtoie, c'est qu'il y a un moment, ça s'appelle un débat. Chacun a le droit d'avoir son opinion. C'est pas une opinion qui va être au-dessus d'une autre. On est tous dans un pays laïque, on a tous droit à avoir nos opinions personnelles. Après, est-ce que les opinions se rejoignent ou pas? C'est là où je trouve que c'est dommage. Parce que si les opinions se rejoindraient, il y aurait plus de mouvements plus concrets, je pense. Et il y aurait plus de... Ça bougerait 10 fois plus les choses. Après, moi je suis pour un débat. Voilà, on peut débattre. Et je sais que chacun peut avoir personnellement son opinion, sa façon de voir les choses, son vécu, parce qu'on a tous un vécu totalement différent. Donc forcément, une famille, bref, etc., différent, donc une opinion totalement différente. Mais on peut quand même se rejoindre sur certains points. C'est-à-dire les points les plus sensés, les plus logiques. Sur ce point-là, on peut arriver à s'entendre malgré une divergence d'opinion. C'est ce que je pense. Après en parler, il faut toujours en parler. Parce qu'il y a un moment où, même si ça fait du nœud de boudin ou quoi que ce soit, on est dans un pays libre, bordel, et on a le droit de dire ce qu'on pense. Après, il faut que les gens comprennent que tu as ton opinion, j'ai la mienne, c'est pas pour autant qu'on doit se foutre sur la gueule, quoi. C'est chacun. Et puis comme je me répète, mais comme je viens de dire, on a tous un passé, un vécu différent, totalement différent, des origines différentes. Tout ça, ça forme une mentalité qui peut être, oui, différente de certains. Mais ce que j'aimerais, c'est que dans des bons débats et dans des bonnes discussions, au final, les gens, sur quelques points, c'est-à-dire les plus importants, se rejoignent. Pour qu'enfin on puisse relever ce pays qui est quand même un pays formidable, on est d'accord, et puis arrêter au bout d'un moment de se prendre le bec pour des petits détails à 2 balles, alors que les vraies choses sont là, les vraies choses sont en train d'arriver. Moi j'ai 2 fils et j'ai peur pour eux. Je me demande ce que moi j'ai déjà 36 ans, je me dis que bon, une partie de ma vie est faite, j'ai encore à vivre, hein, je suis jeune, mais j'ai plus peur pour mes enfants que pour moi-même. Je me dis déjà, nous ce qu'on vit, c'est pas génial, génial. Qu'est-ce que ça va être pour nos futures générations? Et c'est surtout pour eux que j'ai peur aussi. Parce que si ça continue à s'aggraver comme ça, la France va devenir un pays beaucoup moins laïque, un pays beaucoup moins. Ça va plus être la France qu'on a connue. Ça va plus être. Voilà, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, quoi.
Moi, tu voyais, moi j'en ai 45, j'ai une fille de 19 ans. Je me préoccupe plus pour son avenir que pour le mien, parce que bon, à 45 ans, je pense que ma vie, elle a été faite. Même si je suis un peu comme Jean Gabin à l'époque, je dis je sais que je m'aperçois que moi j'en savais. J'ai beaucoup appris, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Moi, je pense que j'ai suffisamment vécu pour savoir ce que j'ai fait, je l'ai fait, que toutes mes conneries, je les ai assumées. Je pense que maintenant, nos futures générations, et plus ça, plus ils vont faire les mêmes conneries que nous, en pire parce que, ils n'ont pas le soutien des anciens qui leur disent, si tu prends tel produit, par exemple, ils n'ont pas les effets secondaires, ils n'ont rien. Donc là, ils prennent sans savoir pourquoi. Donc là, ils deviennent... Ouais. Donc là, comme on ne leur dit pas les effets secondaires, on ne leur dit pas à quoi s'attendre, ils ne sont pas préparés à ce qui nous arrive sur la gueule. Nous, déjà, on ne l'était pas, on essayait de faire par rapport à ce que nos anciens nous ont légué comme patrimoine. Et nous, ce que je voudrais, moi, personnellement, c'est que léguer un patrimoine meilleur que j'ai eu pour mes enfants et les futures générations à venir. Et je pense que beaucoup de monde est comme moi, mais nous, on ne sait pas trop comment faire.
Il faut pas qu'il y ait un dégoût politique qui s'installe, je pense. Et, pour ça, il faut laisser la place effectivement aux opinions, à la réflexion. Mais là, j'ai peur que les gens soient un petit peu dans un paysage de dégoût, un peu. C'est difficile d'y croire. Et c'est vrai que ça fait peur, ouais.
C'est vrai que ça fait peur et je pense que par rapport à actuellement la politique et tout ce qu'ils nous disent et ce qu'ils font pas, c'est vrai qu'on est légèrement blasé.
Et à la fois, il y a un engouement aussi pour le politique, quoi, chez beaucoup de personnes, comme il y avait eu rarement, quoi, là, avec ces élections-là, avec aussi tout le, quoi, l'espace, en fait, qu'a ouvert la France insoumise, sans être forcément complètement adhéré à 100%, en fait. Donc, il y a beaucoup d'associations militantes, plus radicales aussi, qui ont, que ce soit sur des luttes féministes, décoloniales, écologiques, anti-impérialistes et tout ça, qui ont trouvé un espace pour pouvoir échanger, quoi, sans adhérer à 100%. Mais en même temps, c'est dire que là, il y a un cadre, il y a une forme d'abstraction, en fait, où on peut débattre et qui donne aussi un peu envie, quoi. Et beaucoup de jeunes, quand même, d'un coup, quoi, se sont un peu réveillés aussi pour se dire, tiens, peut-être là, il y a une occasion, en fait, de s'organiser aussi. Peut-être aussi que nos collectifs qu'on voulait autonomes, radicaux, tout ça, on peut aussi les... sans faire trop de compromis, quoi. On peut aussi les articuler, en fait, avec différents espaces, différents endroits, quoi, des espaces de lutte qui sont plus la rue ou des organisations autogérées, mais aussi des espaces institutionnels, etc. Donc, il y a tout pour avoir aussi un dégoût, là, quand on voit le deuxième tour. Mais à la fois, il y a aussi un engouement de fond, quoi, une vague aussi qui monte, quoi, qui donne envie de s'organiser. Donc il y a aussi ça quand même, il y a ces graines-là en fait qui sont quoi, qu'on peut, à partir desquelles aussi on peut se nourrir aussi pour la suite quoi. On sait que le temps il est long et les transformations se font aussi dans, dans la durée quoi.
Après un truc que t'as dit c'est qu'on est aussi cette ces dernières années à la fois ça la parole décline, c'est-à-dire que qu'on parle en tout cas dans l'ère médiatique beaucoup pour rien dire, on utilise des mots changeants, wokisme, et j'en passe, islamo-gauchiste, enfin on est là à créer des concepts et des mots qui veulent plus rien dire. En tout cas moi je j'arrive plus à y trouver du sens. Et tu parles de s'organiser et vraiment cette surprise du premier tour pour moi elle est d'autant plus marquante parce qu'il y a vraiment, moi j'étais dégoûtée, ces 0,8% se sont quand même gagnés hors des plateaux télévisés, parce que à la télé, encore le jour même, quelques heures avant, Mélenchon, il avait 15%. Et c'est ça aussi, en fait, la propagande. C'est qu'on est dans un pays où, clairement, sur ce que gobent les Français à majorité, c'est pas du tout à l'image, en tout cas, des aspirations de certains et certaines qui sont, comme tu dis au début, y a la réalité. Et les gens, maintenant, ils sont devant leur poste de télé, ils sont déconnectés, ils sont hors de la réalité, ils sont hors des systèmes où, en fait, on peut se retrouver et discuter. Et par contre, quand je vois encore à quel point on a du mal à articuler nos formes de résistance et à s'écouter, et quand je disais au début, c'est con à dire, mais pourquoi il n'y a pas de, syndic pour les personnes à la rue? Pourquoi il n'y a pas de collectif qui est géré par les personnes dans la rue, avec les propres revendications qu'on ajouterait à d'autres revendications?
C'est vrai que s'il y aurait ça, je pense que la voix du peuple précarité et rural qui vit dans la zone folklore du mondial serait importante, parce que je sais qu'à la rue, il y a beaucoup de choses à dire. Je sais qu'il y en a très peu qui en parlent parce que justement, on essaye justement de nous étouffer régulièrement. Parce que certains gars de la rue qui s'expriment librement dans les radios ou autres, c'est un jargon déjà qu'ils ne comprennent pas tous, c'est politique, parce qu'à part leurs beaux noms, leurs beaux mots bien savants, qui personne ne comprend, qui comprennent qu'eux-mêmes, déjà, ça te permet de manipuler de façon à dire ça, c'est autre chose. Alors qu'en fin de compte, je suis sûr qu'ils penseraient presque la même chose que nous avec des mots bien scientifiques. Qui certains mots n'ont aucun sens, parce que ceux que tu m'as cités, il y en a trois quarts, je ne les connais même pas. Et comme je disais l'autre fois, quand je vais dans le dictionnaire, ça me renvoie sur un autre mot, sur un autre mot, sur un autre mot. Et en fin de compte, j'ai passé une heure à lire le dictionnaire et j'ai toujours pas compris le sens du mot que je voulais savoir. Donc personnellement, je trouve que mettre des mots scientifiques, c'est bien beau. Mais si c'est des mots qui seraient simples à comprendre pour le peuple majoritaire, qui a fait très peu d'études parce que tu en as beaucoup... Eh bien, je pense que peut-être que ça pourrait avancer. Maintenant, de savoir qu'à la rue, on est nombreux, un syndicat, ça pourrait le faire. Est-ce que quelqu'un serait capable de gérer tout ça? Parce que c'est bien beau de dire « je peux gérer », mais il faut voir toutes les contraintes qu'il y a derrière, à organiser correctement les manifs, les trucs, les machins. C'est pas si facile qu'à faire. Moi, je connais beaucoup de monde qui organise même des festivals de rassemblement, et je vois qu'ils sont prêts à y aller. Mais quand on arrive, il faut l'organiser. Ah ouais, mais il y a telle paperasse pour demander tel accord au truc, tel accord, machin. Limite, c'est curieux, il n'y a plus personne pour le faire. Donc, si tu te balances dans organiser quelque chose, à deux, trois, ou tu le fais à fond, ou alors tu dis pas que tu es prêt et qu'une fois que tu as tous les papiers signés, tu es là à demander des accords et tout, tu es là. Allez. Et bien, dans ces cas-là, faut pas s'engager à organiser. Dans ce cas-là, il vaut mieux soutenir les gens. S'il y a quelqu'un qui est capable d'organiser des rassemblements pour que les sans-abri puissent élever leur voix au niveau du peuple pour se faire entendre, moi je serais bien pour suivre. Mais moi je ne me verrais pas organiser des manifs si je connais toutes les contraintes derrière, parce que je l'ai un peu vécu, je sais que c'est très dur.
Moi je sais pas, il y a une phrase qui me tourne l'épine depuis tout à l'heure, c'est qu'on m'a toujours dit que c'était dans l'adversité qu'il y aura de la solidarité, c'est-à-dire face à l'adversité, normalement les gens devraient être plus solidaire, être plus, je sais pas comment vraiment chercher le terme exact, mais voilà, comme on dit, c'est dans l'adversité qu'il devrait y avoir le plus de solidarité. Et après, ouais, qu'il y ait des mouvements, etc., tout ça, il y en a quand même un peu. Il y a quand même quelques manifestations, il y a quand même pas grand chose, mais quelques mouvements qui quand même commencent à se révolter, à essayer de faire parler de tout ça, chose qu'on ne faisait pas il y a ne serait-ce que 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière. Et je trouve que pour moi, tout simplement, cette élection, elle est très dangereuse, on est d'accord, là, ce qui se passe, c'est ça, c'est dangereux. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut justement qu'on devienne solidaire, qu'on commence à réfléchir à comment le futur va se passer. Et que s'il n'y a pas de solidarité, si chacun se marche sur la gueule, il y a un moment, on n'avancera pas, quoi. Donc, c'est, pour moi, c'est dans l'adversité qu'on doit être solidaire. C'est vraiment cette phrase que j'adore là. C'est-à-dire que c'est quand ça devient dur que normalement, il faut s'entraider, comprendre son prochain, au lieu de le juger déjà. Et avancer, tout simplement avancer. Comme me disait mon collègue, on est à reculons depuis quelques années. On n'avance pas, on recule. On est quand même un pays qui, par rapport à certains autres pays, sont traités d'arriérés. On dit que les Français, par rapport à notre point de vue, à notre mentalité, on est arriérés. Ça craint quand même, parce qu'on est un pays, je veux dire, assez quand même laïque, assez quand même... un petit peu progressiste aussi, il faut le dire. On n'est pas le dernier des pays... Et quand je vois que ben, des fois c'est plus à reculons qu'en avançant, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer, comment le futur va se passer, comment tous ces groupes ethniques vont le prendre, comment toutes ces populations mixtes vont prendre tout ça, et qu'est-ce que ça va donner vraiment. Est-ce que ça va donner une guerre civile? Est-ce que ça va donner plus aux gens envie de s'entraider? Est-ce que ça va... Voilà, c'est des questions que je me pose, quoi. Des questions humanistes que je me pose, que je me dis, qu'est-ce que ça va vraiment donner? Est-ce que les gens vont plus s'entraider? Est-ce que du coup, ils vont plus se marcher sur la gueule encore? Est-ce qu'ils vont plus écouter ce que les autres ont à dire? Même quelqu'un qui n'a pas la même opinion que toi, de temps en temps, il faut l'écouter. Il faut aussi écouter sa parole, ne pas le juger, comprendre sa philosophie. Et à partir de là, avancer ensemble. Si on ne fait pas ça, on n'avancera jamais.
Moi, je pense que tout le monde ferait mieux de penser à voix haute ce que tout le monde pense à voix basse. C'est-à-dire, la solidarité, comme dit le collègue, ça serait utile qu'on s'écoute, qu'on se comprenne. Pas de là à dire, inciter les autres à avoir la même opinion, mais aussi, au moins essayer d'avoir des opinions qui se ressemblent, parce que l'union fait la force. Donc, si on est nombreux à se soutenir, je pense que on pourrait faire quelque chose pour notre futur, que tout le monde se pose la question. Mais bon, les trois quarts du temps, on se tire dans les pattes, et pour éviter que ça se tire dans les pattes, les trois quarts pensent à voix basse, que tout le monde ferait mieux plus ou moins de penser à voix haute. Parce que le peuple, si tu enlèves tous ceux qui s'abstiennent, t'as que 10% du peuple qui vote, et je pense qu'il faudrait qu'il y en a beaucoup plus qui se mettent à voter pour faire bouger les choses.
Bah, je pense que c'est pas mal de peut-être clôturer sur ça. J'ai l'impression qu'on est passé par pas mal d'étapes et pas mal de thématiques. Et en effet, je vous remercie. Je vous remercie premièrement parce que j'apprends beaucoup et votre humanité me touche. Et ça me force de constater qu'en effet, ça se place vraiment dehors des plateaux télévisés et qu'il y a encore pas mal de choses à dire, en tout cas. Mais merci en tout cas. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés aussi. Et en tout cas, bah, le prochain plateau, c'est quand ?
C'est jeudi.
C'est jeudi au papier timbré à 19h. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et merci à tous.
Merci.
Merci.
Bah, merci à toi aussi
de nous avoir
donné la parole et puis laissez-nous exprimer un petit peu.